Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, heureuse de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. Saint Joseph est une figure centrale de l'histoire du salut. C'est ce qu'a rappelé le pape mercredi au cours de l'audience générale tenue en la salle Paul VI du Vatican. Plus de détails dans quelques instants avant de nous rendre en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Également dans cette édition, l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira au Soudan, au Burkina Faso, en Éthiopie, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le pape François a poursuivi mercredi son cycle de catéchèses sur la figure de Saint Joseph, l'époux de Marie, au cours de l'audience générale hebdomadaire qui s'est tenue en la salle Paul VI au Vatican. Dans sa catéchèse du jour, François s'est arrêté sur le rôle de Saint Joseph dans l'histoire du salut, en invitant les hommes et les femmes d'aujourd'hui à être les gardiens de leurs frères. Stanislas Kambashi.
Même si les évangélistes ne présentent pas Saint Joseph comme le père biologique de Jésus, il est pourtant son père à plein titre, puisque c'est à travers lui, comme l'expliquent les généalogies, que Jésus entre dans l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes, a indiqué le Saint-Père. La figure discrète de Saint Joseph, apparemment marginale, est cependant centrale dans l'histoire du salut. Assumant sa mission sans jamais se mettre au premier plan, il est un véritable modèle. Tous peuvent trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, de la présence discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments difficiles, a expliqué le Saint-Père.
Egli ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti.
Il nous rappelle que tous ceux qui sont apparemment cachés ou en second plan ont un rôle sans égal dans l'histoire du salut. Le monde a besoin de ces hommes et de ces femmes, a lancé le pape. Saint Joseph apparaît aussi comme le gardien de Jésus et de Marie, a également souligné le pape. C'est pourquoi il est aussi le gardien de l'Église, qui est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire.
Giuseppe con la sua vita sempre a volerci dire che siamo chiamati sempre a sentirci custodi dei nostri fratelli.
Joseph, par sa vie, semble vouloir nous dire que nous sommes toujours appelés à nous sentir les gardiens de nos frères et de nos sœurs, les gardiens de ceux qui nous sont proches, de ceux que le Seigneur nous confie à travers les circonstances de la vie, a rappelé les Saint-Pères. Et à tous ceux que la carence des liens humains plonge dans la solitude ou le découragement, le pape a exhorté à trouver en Saint Joseph un ami et un soutien. Par son exemple, nous sommes invités à être, nous aussi, les gardiens de nos frères, de ceux que le Seigneur nous confie à travers les circonstances de la vie, a conclu François.
Stanislas Kambashi. Bien avant l'audience générale, le pape François a salué dans la basilique Saint-Pierre des pèlerins de la famille Vincentienne d'Italie, des pèlerins de l'association Jean-Paul II de Bichelier et des membres de l'association italienne des victimes de la violence. Aux membres de la famille Vincentienne d'Italie, qui a organisé un pèlerinage dans toutes les régions italiennes, le pape les a remerciés. Vous avez été témoin d'un style de l'Église en sortie qui atteint tout le monde, à commencer par les exclus et les marginalisés. Continuez sur cette voie et ouvrez-vous toujours plus à l'action du Saint-Esprit, leur a recommandé l'évêque de Rome. Aux pèlerins de l'association Jean-Paul II de Bichelier, le Saint-Père les a invités à imiter le Saint-Pontife et à s'efforcer de comprendre et d'accueillir l'amour de Dieu, source et raison de vraie joie. En s'adressant aux membres de l'association italienne des victimes de la violence qui protège tous ceux qui ont souffert de mauvais traitements et de détresse, en particulier les femmes, à la veille de la journée contre la violence à l'égard des femmes qui est célébrée au niveau mondial le 25 novembre, le pape François a une nouvelle fois voulu attirer l'attention du monde sur un phénomène global qui prend de nombreuses formes, traite, abus sexuels et psychologiques, féminicides. Je vous remercie pour votre travail d'assistance et de soutien à ceux qui ont été maltraités et ont subi des situations d'angoisse et de malaise. La violence est laide. Les attitudes violentes sont très laides. Par votre activité importante, vous contribuez à la construction d'une société plus juste et plus solidaire, a déclaré l'évêque de Rome. Que votre exemple suscite un engagement renouvelé en faveur des victimes de la violence afin qu'elles soient protégées, que leur souffrance soit prise en compte et écoutée, a-t-il ajouté. Au Burkina Faso, la Rukoassi Rao, la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, tire la sonnette d'alarme sur l'avancée des groupes armés qui occasionnent plusieurs morts et la fermeture des écoles et des chapelles. La situation sécuritaire du pays se dégrade de jour en jour. Les groupes armés avancent et les attaques contre l'armée se répètent. La population est soumise à leur volonté. Le témoignage rapporté par la Rukoassi Rao, la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest est celui du père Étienne Tandamba, prêtre au service pastoral dans le diocèse de Fanda-Gourma au Burkina Faso. Les enlèvements et la confiscation des biens sont à l'ordre du jour, poursuit le père Tandamba, indiquant que certaines zones sont totalement inaccessibles. Les écoles restent fermées ainsi que certaines chapelles et l'état de l'administration des villes est précaire. Nous continuons à prier et à trouver des moyens d'annoncer la bonne nouvelle et de prendre soin des communautés chrétiennes. Nos défis, conclut le père Tandamba dans la note rapportée par la Rukoassi Rao, sont immenses, mais nous croyons que nous pouvons les relever. En Côte d'Ivoire, les évêques catholiques tiennent du 23 au 25 novembre prochain leur premier conseil permanent de l'année pastorale 2021-2022 en leur siège assise à Abidjan-Cocody. Notre correspondant local nous en dit plus.
Ce premier conseil permanent de l'année pastorale 2021-2022 des évêques ivoiriens sera l'occasion pour les prélats siégeants au sein de cet organe de passer en revue l'état d'avancement de la lettre pastorale sur l'éducation, l'affiliation des grands séminaires à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Bien évidemment, cette question d'actualité, le synode des évêques dont la phase diocésaine a démarré depuis le 17 octobre dernier. L'autre point majeur au cœur de ce conseil, c'est la préparation de l'ordre du jour de leur prochaine assemblée plénière, la 120e qui se tiendra du 24 au 30 janvier 2022 dans l'archidiocèse de Gagnoa. Mais bien avant, les archevêques et évêques ivoiriens auront du 6 au 11 décembre prochain leur traditionnelle retraite spirituelle du temps de l'Avent au centre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Benjerville dans l'archidiocèse d'Abidjan. Retraite lors de laquelle ils examineront à partir d'une note contextuelle demandée par le président de la conférence épiscopale au secrétariat exécutif national de la commission épiscopale pour la liturgie et les chants sacrés sur la nouvelle traduction du missel romain, puis décideront ensemble d'une date pour l'entrée en vigueur de la nouvelle traduction dans leur diocèse respectif afin de se conformer à la volonté de l'Église de faire évoluer le langage de sa prière en ajustant les gestes et les formules qui permettent la participation de tous, a fait savoir Mgr Ignace Bessy dans une correspondance adressée récemment à ses pairs dans l'épiscopat. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Sénégal, notre correspondant local nous rend compte de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse dans le diocèse de Thiès.
Les Journées mondiales de la jeunesse ont été célébrées dans le diocèse de Thiès ce dimanche 21 novembre, solennité du Christ roi de l'univers. La messe a été présidée par l'ordinaire du lieu, Mgr André Gueye, sur le territoire de la paroisse Sainte-Croix de Bambé. Il a exhorté les jeunes à se lever.
Et confiance en toi-même, en tes ressources, en tes talents, en tes capacités. Défends-toi et refuse de te laisser abattre. Parfois, il vous manque la force de la décision. Parfois, vous avez peur de choisir, de prendre le risque, de vous engager.
Cette célébration a connu la participation de plusieurs autorités administratives, militaires et politiques, dont le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, Monsieur Dame Diop. À cette célébration, le président de la Coordination diocésaine des jeunes, Monsieur Fidèle Shanghai, a donné lecture des recommandations du Forum préparatoire des JMJ.
à saisir le regard porté sur l'autre et accepter la différence irréductible. Développer la culture de rencontres fraternelles entre jeunes de religions différentes. Mettre en place des comités de dialogue et de veille en milieu scolaire et universitaire. Créer une chaîne YouTube dialogale et cultiver l'esprit de tolérance dans les réseaux sociaux.
Clément Arwandinou, Dakar, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, revenu à son poste depuis dimanche, restant encore sans gouvernement. Malgré le feu des critiques, il a ordonné mercredi, à travers un communiqué, l'arrêt immédiat des limogeages et des embauches dans les institutions publiques locales et nationales jusqu'à nouvel ordre. Le récit de Christian Combé.
C'est depuis dimanche que Abdallah Hamdok a repris son poste de premier ministre. Mercredi, il a ordonné l'arrêt immédiat des limogeages et annoncé le réexamen de toutes les nominations annoncées durant sa détention consécutive au putsch militaire du 25 octobre. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui avait alors pris le pouvoir, avait procédé à la dissolution de l'ensemble des institutions du pays et dans les semaines suivantes avait annoncé limoger les patrons des médias d'État, d'entreprises et de banques publiques, ainsi que de nombreux responsables au sein des différents gouvernorats. Certains ambassadeurs qui avaient annoncé leur défection étaient également relevés de leurs fonctions. Le premier ministre Hamdok n'a toujours pas de gouvernement après avoir été réinstallé dimanche au terme d'un accord avec le général Burhan. 12 ministres sur 17 issus du bloc réclamant un pouvoir uniquement civil ont démissionné lundi, rejetant la stratégie du dialogue avec l'armée adoptée par M. Hamdok. Si ce dernier est parvenu à obtenir la libération d'une poignée de politiciens de son propre aveu, des dizaines d'autres sont toujours en détention. Et la rue qui accuse M. Hamdok de trahison entend maintenir sa pression sur les nouvelles autorités militaro-civiles qui sont les mêmes en place depuis 2019. Le précédent remaniement n'ayant eu pour effet que l'exclusion des partisans d'un pouvoir uniquement civil. Sur les réseaux sociaux, les militants appellent à faire de jeudi la journée des martyrs, appelant à de nouvelles manifestations malgré une répression qui a fait depuis le 25 octobre au moins 41 morts et des centaines de blessés.
C'était à l'instant Christian Combé. 36 des 53 gendarmes burkinabés tués mi-novembre lors d'une attaque djihadiste dans le nord du pays ont été inhumés mardi à Ouagadougou devant une foule de parents en colère. Les victimes ont été décorées à titre posthume et ont été inhumées au cimetière municipal de Gungien. Plusieurs centaines de personnes, familles des victimes, autorités militaires et soldats se sont recueillis devant les cercueils alignés recouverts du drapeau national 9 jours après l'attaque du détachement de gendarmerie à Inata dans la province du Soum. L'ONU va évacuer d'ici jeudi les familles de ses employés internationaux en Éthiopie, tandis que d'autres pays appellent leurs ressortissants à quitter sans délai ce pays où des combats se rapprochent de la capitale Addis Abeba. Un document interne des services de sécurité de l'ONU demande à l'organisation de coordonner l'évacuation et d'assurer que tous les membres éligibles des familles du personnel recruté à l'étranger quittent l'Éthiopie au plus tard le 25 novembre prochain. Plusieurs centaines de personnes sont concernées par cette mesure. Selon les diplomates, certains combattants rebelles ont atteint la localité de Debrecina, plus proche d'environ 30 kilomètres de la capitale. Des responsables à Addis Abeba ont affirmé au cours d'un briefing avec des diplomates que les forces de sécurité, qui incluent des groupes de jeunes, œuvraient à assurer la sécurité de la capitale. Kenya Yadeta, le chef du bureau d'Addis Abeba pour la paix et la sécurité, a déploré que la propagande et les discours de terreur disséminés par les médias occidentaux contredisent pleinement l'état pacifique de la ville. Donc la communauté diplomatique ne devrait pas s'inquiéter ou avoir peur, a-t-il déclaré.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
L'UNICEF dénonce le recrutement de 21 000 jeunes et enfants et les enlèvements de 3 500 autres depuis 2016 en Afrique. En outre, ont été enregistrés plus de 1 500 cas d'attaque dans des écoles et des hôpitaux, toujours selon le Fonds onusien.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
La suite de notre programme, c'est avec Marie-Josée Mwando-Boisboileau qui nous présente le magazine sur les organisations internationales et la solidarité.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine sur les organisations internationales et la solidarité concerne aujourd'hui l'engagement du Fonds international pour le développement agricole, FIDA en sigle, aux côtés d'un groupe de jeunes au Kenya sur la commercialisation des produits laitiers. Ce groupe bénéficie de l'appui du Vijabiz, un projet financé par le FIDA qui, grâce au mentorat et à l'entrepreneuriat agricole, vise à donner aux jeunes les moyens d'assumer leur autonomie. Le groupe de jeunes Oiseaux Jema, basé dans le comté de Kilifi au Kenya, est composé de 4 jeunes femmes et 6 jeunes hommes qui se sont réunis pour créer leur propre entreprise après avoir eu du mal à trouver du travail dans leur communauté. Après s'être lancés dans l'aviculture, ils se sont rapidement tournés vers l'activité laitière, achat de lait cru aux éleveurs et pasteurisation. Ils transforment le lait pasteurisé en une variété de produits, à savoir yaourt, jus mélangé et ghee, entre autres. Ils ont entendu parler de Vijabiz, un programme offrant un mentorat et une formation à l'entrepreneuriat aux start-up kenyanes dirigées par des jeunes par le biais d'une publicité locale. Vijabiz propose des cours de compétences commerciales de la compatibilité au marketing des médias sociaux aux groupes qui postulent. Les groupes admissibles reçoivent également des subventions qui peuvent être réinvesties dans l'entreprise. Bien que Oiseaux Jema n'ait pas eu droit au soutien financier, ses membres se sont inscrits à tous les cours qu'ils pouvaient suivre. Le groupe a connu des améliorations significatives, notamment grâce à la formation aux médias sociaux. Ils font désormais la publicité et la vente de leurs produits via WhatsApp et Facebook. Avec une clientèle beaucoup plus large à leur disposition, le potentiel de revenus de leur entreprise a considérablement augmenté. Et, armés des compétences nécessaires pour suivre de près leurs ventes, ils sont capables de déterminer quand ils sont à perte et de reconnaître quand ils réalisent des bénéfices. Ils pasteurisent encore leur lait selon la tradition locale au feu de bois. En plus de ne pas être écologique, cette méthode rend difficile de déterminer si le lait a atteint la température d'ébullition appropriée. La pandémie a également pesé lourdement sur leur entreprise. Avant la COVID-19, le groupe vendait environ 60 à 70 litres de lait par jour, mais récemment, ils vendent en moyenne 15 à 20 litres par jour, soit une baisse de 71%. Néanmoins, l'entreprise reste une source de revenus fiable pour les membres et leurs familles et rassure les emplois créés qui ont contribué à réduire le taux de chômage. Toutefois, le point sur les difficultés que le groupe Oiseaux Jema a rencontrées met en lumière les moyens d'améliorer les futures initiatives. D'abord, la disponibilité de l'équipement. Le manque d'équipement approprié peut restreindre considérablement le potentiel de revenus de toute entreprise et Oiseaux Jema n'est pas différent à cet égard. Un deuxième point étroitement lié est la question du financement. Historiquement, seuls certains groupes Vijabiz se sont qualifiés pour un financement en plus des cours de formation. Bien que de nombreux groupes aient rencontré du succès après la formation, d'autres, comme Oiseaux Jema, ont continué à faire face à des défis. Ces derniers groupes bénéficieraient probablement d'un financement après la fin de la période de formation pour les aider à appliquer ce qu'ils ont appris. À l'avenir, ces programmes pourraient envisager de jumeler toutes les formations avec des subventions pour garantir que tous les participants soient financièrement autonomes. À bien des égards, cette situation correspond à l'écart de soutien auquel sont confrontées de nombreuses autres entreprises à travers le continent. La plupart des économies africaines dépendent des start-up et d'autres petites et moyennes entreprises et ont un accès au financement concessionnel limité. Le déficit de financement pour ces entreprises s'élève actuellement à 331 milliards de dollars américains par an. Comme le démontre l'expérience d'Oiseau Djema, investir dans ce secteur est crucial pour créer des emplois pour les jeunes et promouvoir des opportunités de création de richesses.
Notre rubrique du jour est consacrée à la jeunesse. Dans le cadre de notre rubrique du jour sur la jeunesse, nous donnons encore une fois la parole à Dieu le veut, Bouteille Boulari, originaire de la République démocratique du Congo. Vivant en Allemagne depuis plusieurs années, Dieu le veut, Bouteille Boulari est le président fondateur de l'ONG Afro Society Bouteille, avec comme objectif principal l'amélioration des conditions sociales et économiques des jeunes africains et caraïbéens. Dans cette deuxième et dernière partie de l'entretien que nous vous proposons, Dieu le veut, Bouteille Boulari évoque le phénomène de l'immigration clandestine et invite les jeunes à se battre pour se construire un avenir dans leur pays respectif. On écoute.
Je pourrais juste dire aux jeunes que l'Eldorado, c'est nous-mêmes qui le créons. Donc voilà, il y a certains qui sont, je veux dire, ici en Europe, mais qui vivent le cauchemar. Tout se passe dans la tête. Il suffit juste de créer ces bonheurs autour de soi pour se sentir bien là où nous vivons. Donc venir en Europe, risquer sa vie, pas ça qui fera de vous les hommes les plus heureux, hein, parce que ici aussi il y a certaines normes, certaines choses qu'il faudra suivre et ça peut vous prendre vraiment beaucoup du temps. Alors pendant ces temps-là, si vous créez déjà l'Eldorado tout autour de vous, en se lançant dans l'entrepreneuriat, en ayant cette idée de bon vivre chez soi, je pense que vous allez vous en sortir. Donc pour moi, l'Eldorado, c'est nous-mêmes qui les créons, où nous sommes. Ça dépend pas de l'endroit où nous voulions partir. Ça dépend de la manière dont nous voulons créer notre vie.
Quand on sait que dans plusieurs de nos pays africains, la situation sociopolitique est bien difficile, comment se trouver l'essentiel pour se bâtir cet avenir? Alors, dans ce sens, que fait votre ONG?
C'est aussi l'une de nos missions. Nous aimerons partager notre savoir, partager notre connaissance à cette jeunesse pour que cette jeunesse ait l'espoir de vivre, ait l'espoir que un jour ça ira. Donc, au lieu de se déplacer, ça s'appelle aussi la fuite de cerveau. Donc, au lieu de se déplacer, aller ailleurs, vaut mieux se concentrer d'abord là où on est, créer quelque chose de bien là où nous nous trouvons, de sorte que cette création du bonheur de soi pourrait changer les choses. C'est vrai, les choses ne sont pas du tout faciles, mais nous pouvons toujours essayer de créer quelque chose chez nous, au lieu de mettre sa vie en danger pour aller chercher le bonheur ailleurs. Mais on peut toutefois le créer chez nous en créant certaines opportunités, en innovant en fait.
Alors, vous avez notre code à votre arc? Vous êtes écrivain. D'où est née cette motivation, cette envie d'écrire?
Pour le moment, j'ai 4 livres que j'ai écrits. Le premier, c'est Le Réfugié. Donc voilà, Le Réfugié. Donc je parle un peu de mon parcours pour ramener ces jeunes, hein, dire par rapport à l'immigration, conseiller ces jeunes de se prendre en charge et parler un peu de ce que j'ai eu à vivre, redonner l'espoir aux jeunes. Mon deuxième livre, c'est Fin du monde. C'est un livre où je donne ma philosophie par rapport à comment l'homme arrive à s'autodétruire et détruire toute sorte de créature qui se trouve sur Terre.
Il faut défendre la maison commune.
Voilà. Et mon troisième livre, c'est Entre la drogue et la prison, je suis né. C'est un livre qui parle d'un jeune né d'une mère toxicomane et d'un père inconnu. Donc je parle un peu de ce jeune abandonné, de ces jeunes de la rue, de ces jeunes qui vivent dans le cruel précarité. Donc voilà, je redonne un peu espoir dans ces livres-là. Et mon quatrième livre, c'est Fatma, Jérusalem nous a trahis. Écrire pour moi, c'est comme une thérapie, hein. Après certaines dépressions que j'ai eues à survoler, je me suis lancé dans l'écriture. Donc je me retrouve quand je m'écris et je me dis que quelqu'un qui lit mes livres, il est en train de me lire. Donc je me transforme en écriture. Donc je donne ma philosophie, je donne ma personne aux écrits. Donc voilà, pour moi écrire, c'est quelque chose qui m'a sorti du trou où j'étais. Et je conseille aussi aux jeunes d'écrire. Si aujourd'hui nous utilisons la Bible, nous utilisons certaines œuvres qui datent de longtemps, c'est parce que ça a été écrit. Donc je peux dire que l'écriture, c'est quelque chose où nous, étant que jeunes, africains particulièrement et jeunes dans le monde, écrivons, laissons les histoires pour que la génération future puisse connaître quand même ce que nous, les aïeux, ont vécu aujourd'hui. Donc voilà.
Dieuleveu Bouteille Boulari, fondateur de l'ONG Afro Society Bouteille.
Voilà.
Vous voulez être un modèle pour les jeunes. Quel est votre message à l'endroit de la jeunesse africaine aujourd'hui?
Déjà, moi, je donne mon propre témoignage à moi. Donc, de base, je suis orphelin de père. Hein. Il est décédé quand j'avais 7 ans. Et après, j'ai eu à perdre 5 frères. Donc, nous sommes restés qu'à 3. Ce sont deux choses que j'ai eu à surmonter dans ma vie. Mais aujourd'hui, je survis. Et ce qui fait que même d'autres jeunes qui sont passés par le même chemin que moi peuvent aussi survivre. Donc, mon message serait que nous nous prenions en charge, que nous développions beaucoup plus tout entrepreneuriat, que nous envions pas seulement les autres pour donner accès à cette envie d'aller ailleurs. Mon message serait juste que la jeunesse doit comprendre que nous sommes l'avenir. Nous devons nous battre aujourd'hui pour que demain, que nous ayons un avenir meilleur. Étudiants, quand on a l'occasion, apprenons de nouvelles technologies, mettons-nous au travail, changeons les choses, c'est vrai. L'Afrique n'est pas du tout facile, mais essayons vraiment quand même d'innover, essayons de créer notre Eldorado. Et voilà, tout ira bien, j'ai la foi que le Seigneur est avec nous et toute chose va changer juste avec la foi et avec le travail.
Dieuleveu Bouteille Boulari, originaire de la République démocratique du Congo, président fondateur de l'ONG Afro Society Bouteille.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres demain, à la même heure et sur la même fréquence. À très bientôt.